De retour en direct sur le plateau de C'est dans l'air avec nos invités ce soir pour revenir sur ce film que nous venons de voir ensemble. Élie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Je rappelle ce soir votre livre, Le décrochage industriel, publié chez Fayard. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et sociales. Vous êtes également chroniqueuse à la radio France Info. Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et enfin, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès, société d'analyse économique et de conseil. On peut lire votre édito intitulé « Budget, il faut de la pédagogie dans la parole, de la ténacité dans les choix et de la rapidité dans l'exécution ». C'était à lire aujourd'hui sur le site du journal L'Opinion. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à cette émission spéciale. Nous allons, pour une fois n'est pas coutume, commencer avec les questions des téléspectateurs qui sont nés pendant la diffusion de ce film consacré aux relocalisations. Je commence avec celle-ci. Les entreprises ont délocalisé pour baisser leurs coûts. Pourquoi voudraient-elles relocaliser et faire moins de profits? Pourquoi est-ce qu'elles en auraient envie, Élie Cohen, au fond?
Eh bien, parce que la question est insoluble si on raisonne en termes de relocalisation. Par contre, elle devient soluble si on raisonne en termes de localisation. Vous voyez, par exemple, dans le secteur automobile, il y a un renouvellement permanent des gammes. Il serait absurde de fermer une usine au Maroc pour reprendre une chaîne de production qu'on avait délocalisée au Maroc et la réimplanter.
Ça, on a compris qu'on ne le ferait pas.
Ça, on ne le fera pas. Par contre, il y a un renouvellement de gamme, il y a un passage aux véhicules électriques et même pour les entrées de gamme, les petites citadines électriques, eh bien, on vient de décider, par exemple, qu'elles seraient produites dans le nord de la France.
Plus chères.
Elles seront plus chères, mais ça fait sens parce que, comme on est dans une révolution technologique et que le coût essentiel d'un véhicule électrique, c'est le groupe motopropulseur avec sa batterie qui représente à peu près 40% du coût, si vous localisez en France cet équipement, et c'est ce qui a été fait avec ce programme d'Airbus des batteries, ça fait sens de relocaliser en France ces petits véhicules, d'autant qu'il faut savoir que le coût du travail dans ces nouvelles unités est relativement faible. Le coût d'assemblage est relativement faible. Donc, si vous avez à la fois des nouvelles technologies, des nouvelles gammes et la robotique, parce que bien entendu, quand on fait une usine robotisée aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les vieilles usines automobiles que nous avons. Donc, finalement, on s'y retrouve. Et d'ailleurs, vous avez l'exemple que tout le monde donne de Valenciennes avec Toyota, où ils arrivent à être compétitifs. Donc, je crois qu'autant on se crée des difficultés quand on raisonne en termes de relocalisation terme à terme, autant quand on parle de localisation de nouvelles activités dans le cadre d'un renouvellement du tissu productif, ça fait plus sens.
Il y avait juste la fin de la phrase, faire moins de profit. Une entreprise peut accepter de produire un peu plus cher, puisque vous reconnaissez que de toute façon, produire en France, même des voitures électriques, même si c'est un secteur d'avenir, même avec des robots, ce sera toujours plus cher que de le faire ailleurs. Est-ce que ces entreprises-là, parce qu'elles font du business, et d'ailleurs on ne peut pas leur reprocher.
On sait que le coût du travail chargé en France est le plus élevé d'Europe. On sait que nous avons une fiscalité qui pèse sur les entreprises, qui est particulièrement lourde, même si des efforts ont été faits. On sait qu'il y a un coût réglementaire qui est élevé. La question, c'est est-ce que quand vous combinez tous ces éléments avec un input nouveau, qui est une nouvelle technologie qui permet d'économiser sur les coûts, qui permet d'apporter un produit que vous pouvez vendre plus cher, qui fait la différence, est-ce que ça permet malgré tout de fabriquer en France?
Alors, il y a beaucoup de questions, on avance. Quelles activités faut-il faire revenir en France? Nicolas Bouzou.
En fait, il y a deux types de relocalisation. Il y a des relocalisations, on va dire, pour des raisons liées à l'idée qu'on peut se faire de la souveraineté, de l'indépendance de la France. Donc là, on va aller, par exemple, dans la pharmacie. Hein. C'est ce que le président de la République avait annoncé avec le Doliprane. Je dirais que ça, c'était un peu hors champ économique. C'est-à-dire que ce sont des choix politique, on a considéré qu'il n'était pas normal qu'un très grand nombre de molécules pharmaceutiques soient produites en Chine. Et donc, pour des raisons d'indépendance sanitaire, on va essayer de les produire en France. Donc là, on va trouver des secteurs comme le secteur de la défense, mais c'est déjà le cas, le secteur du numérique, hein, on en a parlé pendant le reportage, c'est très important. Et puis, la pharmacie, bien entendu. Et puis, il y a des relocalisations, celles dont on vient de parler, qui sont des relocalisations économique. Et là, ce n'est pas une question de secteur, c'est en effet une question de technologie. C'est-à-dire que là où on peut avoir des usines avec plein de robots, plein de numériques, plein d'intelligence artificielle, plein d'imprimantes 3D, il va être possible de développer des unités de production à des coûts qui sont quasiment comparables à ce qu'on peut faire aujourd'hui en Asie.
Alors, on poursuit notre discussion avec cette question. Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour des produits fabriqués en France ?
En tout cas, sur le papier, ils ont envie. Après, effectivement, parfois, ils se heurtent à la réalité et au pouvoir d'achat. Sur la question des relocalisations, on parle d'argent, de coûts, mais il y a quelque chose qui, on l'a vu là, dans cette crise, est devenu essentiel, c'est limiter les risques. Et ça aussi, c'est une façon de préserver son activité. Parce que si vous avez des fournisseurs qui sont très, très loin, si vous avez... y a eu des retours à des moments où on a fait revenir des usines parce que la situation politique n'était pas la bonne. Alors, certes, la France a plein de handicaps, le coût du travail, etc., mais elle a aussi plein d'atouts. Donc, je crois que ça, c'est en train de peser beaucoup plus que dans les années 80 ou 90. Ces éléments-là pèsent beaucoup plus fortement sur l'environnement, que ce soit l'environnement éducatif, les infrastructures. C'est bien beau de faire des usines à l'autre bout du monde, mais si c'est très compliqué, très cher, très long d'acheminer, on va le voir avec les changements du côté des transports. Tout ça, aujourd'hui, je pense que les entreprises mettent ça sur le papier. Ouais. Et par ailleurs, au niveau de la demande, il y a la demande coût. Effectivement, le consommateur, est-ce qu'il est prêt à payer? Mais aussi, on le voit bien chez les jeunes générations, c'est très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des changements en termes de consommation, de se dire...
Une forme de patriotisme économique.
Chose que les Allemands ont de façon très forte. Nous, c'est en train quand même, peut-être à l'aune de cette crise, d'apparaître.
Élie Cohen voulait dire un mot.
Oui, je voulais dire quelque chose. Il ne faut pas confondre relocalisation et résilience économique.
C'est quoi la différence?
La différence est très importante. Ce qu'on a découvert avec la crise pharmaceutique, c'est qu'on a manqué de tout. On a manqué de masques, on a manqué d'aspirine, on a manqué de tout. Mais on a manqué de tout, pas simplement parce qu'on ne fabriquait pas chez nous, mais parce que, en fait, la production était concentrée, par exemple pour les principes actifs, en Chine et en Inde. 80% des principes actifs du paracétamol étaient fabriqués en Inde et en Chine. Donc, on n'est pas obligé, si on veut combattre cette situation, de fabriquer en France. On peut chercher à susciter une concurrence, par exemple, inciter le Mexique, le Vietnam,
et
la
Pologne... Et pourquoi pas rapatrier la
production ? Non, attendez. Bien entendu, on peut vouloir tout rapatrier en France. Mais comme on doit faire des choix, qu'on doit faire des arbitrages et qu'on doit... essayer de chercher des solutions qui sont abordables financièrement, la première mesure, c'est de ne pas dépendre exclusivement de l'Inde et de la Chine. Donc, première mesure, diversifier les pays qui fabriquent. Deuxième mesure, on peut augmenter nos stocks de précaution. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'on a manqué de curares, de produits majeurs pour la réanimation, etc., parce qu'on avait des stocks qui n'étaient que des stocks de 2 mois. Eh bien, il faut avoir des stocks de précaution, non pas de 2 mois, mais peut-être de 4 mois, de 6 mois. Donc, vous voyez, la solution, ce n'est pas nécessairement
la relocalisation. Mais vous voyez, vous mettez quand
même... Et la résilience économique, c'est la combinaison de ces effets de stock, de cette diversification des fournitures et, dans certains cas, de la relocalisation.
C'est important ce que vous nous expliquez, parce que quand on a entendu, et on l'a entendu en début du film, le président de la République, qui, avec gravité, explique aux Français qu'on va récupérer notre souveraineté. Et il parle de ces secteurs qui sont stratégiques. J'allais dire bêtement, on s'est dit « Ah bon, bah, il faut rapatrier la production, puisqu'on parle des médicaments. » Mais il y avait d'autres choses. Il y avait aussi la question de l'alimentation, même si la France est plutôt bien lotie en la matière. Mais ce n'est pas si simple. C'est ça que vous nous expliquez. Et surtout, on n'a pas forcément intérêt à rapatrier une partie de cette production-là.
Non, mais puis surtout, quand on va creuser certains secteurs, comme par exemple le secteur des composants électroniques, parfois, il y a une ou deux usines dans le monde qui fabrique le composant dont a besoin telle entreprise ou pas. Donc, il n'est pas question de tout fabriquer en France, parce que d'abord, ce ne serait pas possible, techniquement, économiquement, financièrement. Et ensuite, ce serait absurde, parce que ça voudrait dire qu'on va fragmenter à l'excès une production qui, du coup, deviendra inefficace.
En tout cas, pour faire un petit peu de politique avec vous, sur Azik Amener, on voit bien à quel point le logiciel, il a changé. Hein. Même sur les mots qui sont choisis, sur la souveraineté, l'indépendance... de la part dans la voix du chef de l'État, et pas que lui d'ailleurs.
Oui, on le découvre au mois de mars quand il parle de réinvention et que justement il utilise ce terme. Alors, souveraineté, il l'utilisait auparavant pour la souveraineté européenne. Dans sa campagne, il avait commencé à parler de souveraineté européenne et on comprenait que c'était les prémices du fameux discours de la Sorbonne, donc un discours large sur l'Europe et pas du tout un discours de souveraineté économique française. Et c'est vrai que cette crise, elle a fait bousculer les choses, elle a fait basculer quelque part la vie politique française, dans la mesure où les changements ne sont pas immédiats, mais un point de vue qui pouvait être minoritaire auparavant est devenu majoritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous expliquez que c'est très compliqué, ce sera totalement présent lors de la prochaine campagne présidentielle. C'est devenu un sujet majeur. Cette indépendance dont vous parliez à l'instant, cette indépendance notamment en termes de fourniture de médicaments, c'est un sujet qui reviendra et qui revient d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire qu'on va, se reposer les mêmes questions. Donc ce sera en permanence présent. Auparavant, c'était un sujet qui existait, qui était préempté par quelqu'un comme Arnaud Montebourg, que vous avez interrogé dans votre documentaire, mais ce n'était encore pas un sujet de premier plan comme il va l'être aujourd'hui. Parce que pourquoi, comment les sujets deviennent de premier plan quand le président de la République s'en empare, et c'est ce qui s'est passé là.
Une dernière question avant d'aller au premier reportage, parce que nous allons étudier ce soir aussi le budget, hein, le budget qui a été présenté, qu'un budget de relance, et avec un volet aussi consacré aux relocalisations. Mais cette question, peut-être pour vous, Nicolas Bouzou, bref, maintenant qu'on a remplacé, par des robots la plupart de ces ouvriers mal payés qui coûtaient une fortune, on peut relocaliser.
Alors, les délocalisations, je sais que ça étonne toujours quand on dit ça, mais explique une très faible part des pertes d'emploi 10%. Ces 20 dernières années. C'est entre 5 et 10, même pas, c'est un peu moins, c'est entre 5 et 10%
du Trésor,
selon les études. Ouais. Ça veut dire que, imaginons qu'on relocalise tout ce qu'on a délocalisé, on gagnerait entre 5 et 10% de tous les emplois qui ont été perdus ces 20 dernières années. Mais en fait, c'est beaucoup moins, parce que, comme on l'a expliqué, on va relocaliser avec beaucoup plus de machines. Donc, la question des relocalisations, si vous voulez, politiquement, je pense qu'il ne faut pas la survendre.
Ah bon ?
Non, pour deux raisons. Elle est très importante et légitime, mais il ne faut pas la survendre pour deux raisons. La première raison, je crois qu'on a essayé de bien expliquer, c'est qu'on n'a pas intérêt, y compris économiquement, à tout relocaliser, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on relocalisait tout, ça ne réglerait en rien notre problème d'emploi et le problème d'emploi qui est devant nous.
Allez, la relocalisation, en tout cas, c'est l'un des enjeux du budget présenté par le gouvernement. Bruno Le Maire fait le pari d'agir sur deux tableaux, parer au plus pressé, à l'urgence, mais aussi préparer la relance. Le montant des dépenses est vertigineux, mais pour l'opposition, face à l'incertitude de l'épidémie, ce budget est déjà obsolète, dépassé. Pendant ce temps-là, la colère contre les mesures de restriction s'installe dans le pays. Juliette Vallon, Julien Launay et Dominique Lemarchand.
Il fait la une des quotidiens français ce matin. Le budget 2021. Un budget hors norme, ambitieux, titre les journaux, à la hauteur d'une crise qui pourrait s'avérer encore plus grave que prévu. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne cachait pas que les mois à venir allaient être difficiles.
Nous allons nous sortir d'affaires, ça prendra du temps, et nous mettrons 2 ans avant de retrouver le niveau de développement économique que nous avions avant la crise. Je ne vais pas expliquer que nous connaissons une récession comparable à celle de 1929 et qu'en 6 mois, tout va être effacé. Ce n'est pas vrai.
Une crise économique qui a heurté de plein fouet les entreprises et même les plus grands groupes français. Parmi eux, le géant de l'hôtellerie Accor, qui a enregistré en juin dernier une baisse de 52,4% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Privés de leurs clients étrangers, pour beaucoup des touristes asiatiques, les enseignes de luxe comme Chanel souffrent également.
Nous nous attendons à ce que l'environnement extérieur continue à peser négativement sur le secteur du luxe au cours des 18 à 24 prochains mois.
Autre fleuron tricolore en danger, Air France. Affaiblie par les réductions drastiques des vols commerciaux, la compagnie aérienne française est au bord de la faillite. L'État a dû débloquer 7 milliards d'euros pour la renflouer, une enveloppe qui pourrait ne pas suffire en cas de deuxième vague et d'un reconfinement.
Alors, ce que Air France pourrait disparaître, je vais vous répondre simplement, une compagnie aérienne disparaîtra si son État décide de la lâcher. Si l'État soutient Air France, comme l'État américain soutient les compagnies américaines, comme l'État allemand soutient Lufthansa, Air France ne disparaîtra pas. Si du jour au lendemain, on décide de ne plus soutenir une compagnie aérienne dans une situation économique pareille, obligatoirement, on n'a pas les moyens de survivre.
Survivre, c'est aussi ce que tentent de faire les restaurateurs, exsangues. Ce matin, leur représentant avait rendez-vous avec le Premier ministre Jean Castex et il comptait bien se faire entendre.
Aujourd'hui, ils sont excédés. Ils sont excédés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, effectivement, jusqu'à maintenant, on les a stigmatisés comme ça. La difficulté, vous savez, c'est l'équilibre car le gouvernement, on le comprend très bien. C'est-à-dire protéger les citoyens et nous préserver les entreprises. Voilà, et là, il faut qu'on trouve des réponses. On ne peut plus fermer nos entreprises. On ne peut plus fermer nos entreprises. Qu'est-ce que demandent nos cafetiers, nos restaurateurs, nos hôteliers? C'est simple, ils veulent travailler.
Les restaurateurs et hôteliers ont notamment obtenu une augmentation du fonds de solidarité et une prolongation du chômage partiel jusqu'au 31 décembre. Alors, face à la crise sanitaire, la stratégie budgétaire du gouvernement est-elle à la hauteur ? Non, répond l'opposition.
Il mixe tout, il mélange un peu tout. Il y a une sorte de fouillis dans lequel il y a des mesures de court terme, des mesures de moyen terme, des déficits tout à fait considérables qui s'affichent, dont on ne sait pas très bien la réalité. Et je pense qu'il aurait dû guider les Français dans une lecture de l'avenir. Le gouvernement, il doit plus éclairer l'avenir, être moins au jour le jour, être moins façéant, un peu comme il l'est aujourd'hui dans la politique sanitaire.
Après le secteur de la restauration, le gouvernement vient d'indiquer qu'il recevrait rapidement une autre délégation, celle du secteur de l'événementiel, la semaine prochaine.
Une question quand même sur ce budget, Nicolas Bouzou. Il est déjà dépassé, ce budget, comme on l'a entendu dans le reportage et on la voit d'Éric Woerth qui sous-entend que ça part un peu dans tous les sens.
Il n'est pas dépassé aujourd'hui, mais il le sera dans... Oui, demain. Mais ça, c'est... Enfin, on ne peut pas faire autrement, c'est normal. Cette année, il y a eu 3 lois de finances rectificatives. C'est absolument historique. C'est-à-dire qu'il a fallu refaire le budget 3 fois. Il y aura forcément au moins une loi de finances rectificative en 2021 pour une raison qui est simple, mais qu'il faut rappeler, c'est le fait que nous ne sommes pas du tout dans une crise économique classique. Nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Ça veut dire que la situation économique, et c'est très exactement là ce que l'on vit depuis quelques jours, elle réagit aux conditions sanitaires. Et les conditions sanitaires, bah, par définition, ce virus, on le connaît mal, donc les conditions sanitaires du trimestre prochain, elles sont impossibles à connaître. Donc,
ce que vous dites, pardon, je vous coupe, mais quand vous dites ces derniers jours, ça veut dire que quand on a dit on referme les bars, les restaurants à Marseille, quand on a dit on ferme après 22h, ça a une incidence immédiate
mais catastrophique sur tous les secteurs, très au-delà du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. À titre personnel, j'étais moi-même surpris de la violence, de la réaction des chefs d'entreprise. Moi, je vois bien, je les vois tous les jours, mais qui nous disent là depuis une semaine, on arrête tous ces investissements qu'on voulait reprendre, les embauches qu'on voulait reprendre, on arrête parce que au fond, on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Quand je dis ça, ça n'est même pas une critique que je formule à l'égard du gouvernement, parce que je pense que malheureusement, la situation est comme ça. Et aujourd'hui, ce que nous disent les entreprises, c'est au fond la porte de sortie économique, c'est un traitement ou un vaccin. Mais c'est ça la porte de sortie ultime de la crise.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse économique à la crise économique qui est liée à la crise sanitaire. Pardon, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de réponse économique, même un budget bien foutu.
Mais le budget est, à mon sens, très bien fait. Le plan de relance est, à mon sens, très bien fait. Mais je crains que l'efficacité de ce budget se brise sur la perte de confiance liée aux conditions sanitaires.
Fanny Guinochet.
Notamment, le plan de relance, c'était aussi dire on gère l'urgence, mais surtout, on regarde devant, on essaye de se projeter. Or, ce plan de relance, il était fondé sur la confiance aussi. On vous donne de l'argent, on donne de l'argent aux entreprises pour qu'elles investissent. Et là, comme vous l'avez dit, ça se fracasse parce que la confiance, elle ne peut pas être là. C'est quasiment du jour au lendemain, on a l'impression que l'épidémie reprend le dessus et que du coup, bah forcément, on se réadapte. Et c'est vrai que la décision qui concerne aujourd'hui les cafés-restaurants, tous les chefs d'entreprise se sont dit, même ceux qui étaient dans des secteurs moins affectés, qui n'étaient pas soumis à une décision de fermeture administrative, se sont dit, mince, on va être reconfinés. Ah bah alors, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est pour nous, que dans 15 jours, ça va être un reconfinement local. Nous, on est en zone écarlate, ça va nous tomber dessus. Nos salariés ne pourront pas venir travailler. Voilà, donc c'est ce signal-là qui fait qu'aujourd'hui, le budget qui a été présenté risque effectivement d'être remis en question. Et après, on voit l'opposition aujourd'hui qui critique, mais c'est quasi inaudible. D'habitude, la présentation du budget, c'est un moment important dans la vie démocratique. Effectivement, c'est un moment où on critique qu'il y a trop de dépenses, pas assez d'économies. Là, qu'est-ce que vous voulez dire ? On préserve la santé des gens. C'est ça le choix qui a été fait. C'est complètement, ça semble complètement décalé de dire « Ah bah c'est flou, ah bah on ne sait pas où on va, qui a leur place ?» Voilà.
Alors, si vous nous rejoignez, émission spéciale ce soir de C'est dans l'air en direct, nous évoquons une promesse, d'ailleurs, une des promesses même de ce budget dont on parle à l'instant, les relocalisations. Élie Kohlen, vous voulez dire un mot sur la construction de ce budget ? Et c'est intéressant peut-être de rappeler que Bruno Le Maire, il estime qu'il peut faire les deux. C'est-à-dire jouer les pompiers, éteindre les incendies, mettre de l'argent là où il y en a besoin, et on l'a vu, il y en a besoin dans le secteur de l'aérien, etc. Et en même temps, préparer la suite.
Ouais, je crois que ce budget a été préparé sur une hypothèse qui était qu'on assistait à la fin de la première vague, qu'il allait y avoir éventuellement quelques vaguelettes et que donc le budget devait permettre à la fois de gérer ces vaguelettes et surtout de préparer la sortie de crise. Or, ce à quoi on assiste actuellement, c'est probablement à une deuxième vague. Et donc ça, ça change tout. Parce que face à une nouvelle vague, il faut reprendre le schéma qu'on a déployé pour la première vague. Souvenez-vous, c'était un plan en trois temps. Premier temps, faire face à l'urgence, donc combler les pertes de revenus, mettre en place du chômage partiel, différer les charges, étaler les charges. Ça, c'était la première phase. Et par exemple, juste le dispositif de chômage partiel, ça nous a coûté plus de 30 milliards d'euros. Il faut avoir présent à l'esprit ce chiffre, parce qu'à mon avis, on va repartir sur une logique de ce type à partir de maintenant.
Au-delà des 30 milliards.
Ah ben oui, parce qu'on va constater qu'il va falloir de nouveau mettre de l'argent massivement pour le chômage partiel. Le deuxième acte, c'était des plans sectoriels, c'est-à-dire un certain nombre de secteurs souffraient énormément. Et donc, il avait fallu faire des recapitalisations d'Air France, un plan pour l'hôtellerie et la restauration, etc. Et puis, la troisième phase, c'était le plan de relance. Et dans ce plan de relance, il y avait notamment ce chapitre qu'on n'a pas évoqué encore, le milliard qui était prévu pour les relocalisations.
Oui.
Hein, il était prévu qu'on allait faire des appels d'offres et demander
aux entreprises.
Hein,
c'est oublié.
Non, mais ça fait partie du troisième acte. Ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est très bien, sauf que maintenant, probablement, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase qui est comment on traite cette éventuelle deuxième vague avec des phases de confinement partiel localisées, avec des aides publiques encore importantes pour la compensation des revenus, notamment des hôteliers, des restaurateurs. Vous avez vu qu'on a poussé la jauge de 1 500 à 10 000 euros pour l'aide en fonds de solidarité, pour le travail partiel, l'indemnisation du travail partiel accompagnée de formation, pour l'étalement des charges.
Vous avez vu les chiffres sur le déficit de la protection sociale. On va en parler de la dette, mais je me souviens, et je vous rends hommage, au tout début de la crise, vous nous disiez, c'est un saut dans l'inconnu, on n'a pas de modèle économique.
Absolument.
On était juste avant la première vague.
Oui.
Là, on est au moment du déclenchement d'une deuxième vague, là non plus, on n'a pas les codes. Ce n'est pas parce qu'on regarde comment les choses se sont passées qu'on saura mieux faire économiquement.
Non, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réagi très fortement face à la première vague, qu'on a utilisé tous les instruments. Il faut voir les chiffres qui ont été publiés ce matin. Il faut savoir que le ratio dépenses publiques sur richesse nationale a atteint 65%.
Ça ne me parle pas. Pourquoi c'est si spectaculaire?
C'est spectaculaire parce que ça veut dire chaque fois que les Français collectivement produisaient 100, l'État recyclait 65, les deux tiers. Ça veut dire que toute la richesse créée, il n'y en a qu'un tiers qui va aux ménages à titre individuel. Ouais. Les deux tiers sont recyclés par l'État. Ouais. On n'a jamais vu ça. Mmh. On est plus que dans une économie de guerre, là.
Sazi Kemener, il y a évidemment au sommet de l'État la prise de conscience de ce qu'est en train d'expliquer à l'instant Eli Cohen, mais il y a toujours cet arbitrage et on sent bien que c'est très compliqué. À un moment donné, se dire, justement, parce qu'on ne sait pas comment on pourra peut-être assumer financièrement deuxième vague, etc. Je ne sais pas si la question se pose, mais en tout cas, on est au-devant d'une situation encore incertaine. Et est-ce qu'il faut privilégier un aspect plutôt qu'un autre, la santé plutôt que l'économie? Il y a toujours cette difficulté à trancher.
Oui, et cette difficulté, elle est présente depuis la rentrée. Regardez, on attendait une annonce du plan de relance et puis elle a été décalée d'une semaine parce qu'il fallait préparer la rentrée des enfants en temps de Covid. Donc on a beaucoup entendu de la part du gouvernement, on va vivre avec le virus. Mais tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'état de se dire on va vivre malgré le virus. Et donc, il y a cette discussion permanente. Et d'ailleurs, les ministres, quand on les interroge, ne comprennent pas bien. Vous ne parlez pas du plan de relance, c'est considérable, c'est des milliards qui sont sur la table.
Et personne
ne le voit. C'est historique ce que nous sommes en train de faire et personne ne le regarde. Mais effectivement, parce que ça arrive à un moment où le gouvernement a envie de pousser son avantage sur des choix qui ont été faits, sur le fameux « quoi qu'il en coûte » qui est tout de même spectaculaire d'Emmanuel Macron. Et en même temps, la crise sanitaire revient en permanence. Et c'est vrai que du coup, le discours économique devient beaucoup moins audible et que ce qu'on va être en train de regarder, c'est est-ce que les cafés vont fermer à 22h, à 23h, est-ce que telle personne va être indemnisée et surtout, est-ce qu'elle va être prévenue? Parce que dans cette période de grande incertitude, ce qui est reproché au gouvernement, alors on parlait tout à l'heure des oppositions qui parlent de la non-prévoyance ou de la non-annonce des scénarios de différents... Parce que c'est ce qu'ils demandent des scénarios pour le budget, s'il se passe ci, on fait ça, etc. Mais là, ce qu'attendent les Français, les cafetiers, etc. C'est des scénarios pour demain matin. Donc il faut vraiment conjuguer tout ça. Et c'est vrai que c'est un arbitrage très difficile, mais moi, ce qui me frappe toujours quand on discute avec des membres de l'exécutif, c'est que toujours la contrainte économique vient et puis tout d'un coup, on dit « Ah mais oui, mais il y a le sanitaire aussi ». Et c'est toujours dans ce sens-là que ça se passe, et c'est dans ce sens-là que c'est, dont on entendait parler d'ailleurs avant le confinement.
Et cette phrase justement du ministre de l'Économie, ce n'est pas parce que les difficultés sanitaires ont repris qu'il faut abandonner l'idée d'une relance économique. Bah si, non ?
Là, je dirais que le contexte, me semble-t-il, a beaucoup changé depuis la première vague. C'est-à-dire qu'au mois de mars, l'exécutif a pris des mesures extrêmement spectaculaires, donc pour l'essentiel, la garantie des prêts bancaires aux entreprises, qu'on a appelé les PGE, les prêts garantis par l'État, et le chômage partiel. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces dispositifs ne fonctionnent plus du tout de façon optimale. Je prends l'exemple du chômage partiel. Le chômage partiel, en fait, on s'est rendu compte que ça marchait très bien pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Aujourd'hui, les gens, vous ne pouvez plus les laisser en chômage partiel parce qu'ils sont démotivés, parce que même si dans le plan de relance, il y a des facilités pour accéder à la formation professionnelle, mais vous avez des gens qui se déqualifient, puis les gens, ils finissent par quitter les entreprises. Donc ce dispositif qui est bien sur le papier, mais fonctionne...
Il ne peut pas être durable.
Bah non, enfin non, il ne peut pas être, durable, mais pour des raisons qui sont, je dirais presque, des raisons psychologiques. Les prêts garantis aux entreprises, bah là, les entreprises vont devoir commencer à les rembourser. Alors, beaucoup d'entreprises ont été très prudentes, ont pris cet argent et l'ont mis de côté, mais vous avez des entreprises qui commencent à consommer, à utiliser ces prêts. Donc, vous voyez qu'on entre dans autre chose, et je pense que du coup, ça va pousser l'exécutif, du coup, à peut-être privilégier un peu plus que par le passé l'économie par rapport à la contrainte sanitaire.
Le risque, c'est le découragement. C'est de se dire, il y a eu le confinement. Après le confinement, par exemple, vous aviez des entreprises, on revient sur les cafés-restaurants, qui ouvraient, même s'ils avaient une forme de perte, parce qu'ils disaient, ou les coiffeurs, ils disaient, bon, finalement, ça nous coûte cher, ces contraintes sanitaires, mais on relance la machine tant bien que mal. Là, au bout de 6 mois de crise, avec une épidémie qui revient, les gens se disent, bon, bah, finalement, on baisse rideau, et puis
on n'y arrivera pas.
On n'y arrivera pas. C'est ça le risque. Et c'est très préjudiciable pour l'économie, parce que la volonté, c'est qu'on dépense de l'argent, l'État met à disposition de l'argent pour investir. Mais pour investir, pour utiliser cet argent qui est mis à disposition, faut-il encore que les gens s'en saisissent, que les gens le consomment, fassent des projets. Et là, aujourd'hui, la psychologie, comme vous le disiez, rentre vraiment en ligne de compte.
La confiance, elle peut difficilement revenir, la confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Un mot quand même sur la baisse des impôts de production. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Là, c'est une stratégie vraiment assumée de la part du gouvernement. Est-ce que ça peut jouer dans les relocalisations ?
Écoutez, franchement, cette histoire d'impôt de production, c'est une espèce de ritournelle qu'on entend tous les 6 mois.
Mince.
Lorsque ce gouvernement s'est installé, le grand thème, c'était le pacte productif. Et j'ai participé à des tas de réunions à Bercy sur le pacte productif. Et le chapitre 1 du pacte productif, c'était la baisse des impôts de production.
D'accord.
Et le premier discours qu'avait fait Bruno Le Maire, c'était de dire, et depuis ça revient en boucle, nos impôts de production, c'est 5 fois plus important que ce que paient nos concurrents allemands, et c'est 2 fois plus important que la moyenne européenne. Donc l'impératif, c'est de baisser les impôts de production. Et puis, comme par hasard, le premier acte du plan de relance, c'est la baisse des impôts de production. Donc vous voyez...
Mais ils sont cohérents.
Non, mais il n'y a pas grand rapport entre la baisse des impôts de production et le plan de relance. La baisse des impôts de production, c'est une nécessité parce que c'était un différentiel de compétitivité fiscale qui était absolument insupportable. Comment vouliez-vous qu'une usine vienne se localiser chez nous alors que les impôts de production étaient 5 fois moindres en Allemagne ? Comment vouliez-vous qu'une usine vienne s'installer chez nous alors que les taux de marge en France étaient beaucoup plus faibles qu'en Allemagne, en Italie, en Angleterre,
en Espagne ? Donc ça peut aider aux relocalisations ?
Non, c'est une bonne chose, absolument, parce que ça améliore la compétitivité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il faut le prendre.
Bon.
De même que la baisse de l'impôt sur la société est une très bonne chose à prendre. De même que la baisse des charges est une bonne chose à prendre. Mais tout ça, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter pour essayer de corriger le différentiel de compétitivité de la France par rapport à ses voisins. Donc c'est positif, mais globalement, juste pour dire un mot, pour conclure, si vous voulez, une crise majeure comme celle qu'on connaît actuellement, c'est une crise qui s'explique par l'effondrement de la demande. Et les mesures qui sont prises sont des mesures de stimulation de l'offre.
Ils sont à côté de la plaque.
Non, ce n'est pas à côté de la plaque. C'est juste que les mesures...
Je vous taquine.
Les mesures de soutien de la demande, on les avait prises avant, avec l'indemnisation du chômage, avec les maintiens de pouvoir d'achat, avec, etc., toutes les mesures.
Cette question qui était très présente dans le débat ces derniers jours, quelles contreparties seront demandées aux entreprises bénéficiant des aides de l'État?
Il va y avoir des demandes. C'est vrai que la difficulté, c'est de dire on donne de l'argent gratuit, quoi. On donne de l'argent sans qu'il y ait des obligations de la part des entreprises de garder les salariés en poste, de faire quelques efforts. Et c'est vrai que demain, par exemple, il y a une négociation qui s'ouvre sur l'assurance chômage. On doit reparler de la réforme de l'assurance chômage qui, pour l'instant, est suspendue. Oui. Si le gouvernement décide, comme il a l'intention, en tout cas actuellement, de le faire, de mettre en application cette réforme, les gens vont dire, mais attendez, vous demandez, vous durcissez les conditions de chômage pour tous les Français qui perdent leur job, et de l'autre côté, vous donnez 10 milliards d'euros, ces fameux impôts de production, qui est une vieille marotte patronale, aux entreprises, comme ça, sans contrepartie. C'est là où il risque d'y avoir un certain décalage, parce que vous ne pouvez pas demander de faire des efforts aux uns et puis un peu moins aux autres.
Juste, je voudrais revenir sur une des phrases qu'on a entendues dans le film à l'instant de Bruno Le Maire qui dit, je pose la question, en gros, qu'est-ce qui s'oppose aux relocalisations? Quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Et il dit les actionnaires. Eli Cohen.
Il sait flatter ses auditeurs. Il sait que c'est une phrase qui va faire plaisir.
Parce à
que
qui
aux électeurs, aux citoyens,
aux Français,
qui sont persuadés que les entreprises s'en mettent plein les poches, que les actionnaires se versent des dividendes indécents, et que si on supprimait les dividendes, peut-être que ça irait mieux pour le pays, qu'il y aurait des relocalisations, que la réindustrialisation repartirait, etc. Je crois que le ministre ne croit pas un mot de ce qu'il dit.
Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Bouzou?
Oui, bien sûr, les politiques de dividendes sont à peu près partout les mêmes dans le monde et c'est plutôt la France qui a des problèmes. Donc.
Et dans cette crise, certains, quand même, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Vous allez le voir, nous sommes rendus à Angers. Dans cette ville, les commerçants n'ont pas fermé le rideau, bien au contraire. Ils se sont adaptés aux nouveaux modes de vie, de consommation. Ils se sont serrés les coudes, petites et grandes entreprises ont d'abord joué le jeu du local. Reportage, Juliette Perrault et David Lemarchand.
Ce carnet, c'est le nouvel outil de travail de Laurence Collin.
C'est mon petit carnet de commandes. Le nom de la personne, l'article qu'elle m'a demandé et puis le numéro de la commande.
Des commandes de clients qui s'envolent malgré le Covid-19.
En juillet-août, pour vous donner une proportion, c'était 20% de mon chiffre. Par rapport à l'année dernière, j'ai fait la même chose et 20% de plus.
Car depuis la crise, la gérante s'est mise à la vente en ligne. Et pour cela, rien de plus simple. Il lui suffit de son téléphone.
Je reçois en même temps que tous mes mails. Vous voyez, Wishibam, Marketplace, support. Hop, une nouvelle commande vous attend. À part transmettre un tableau Excel de code barre, après, c'est terminé, quoi. Après, j'ai juste à exécuter la demande de ma cliente.
Une petite révolution numérique orchestrée par cet homme.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous allez bien?
Il y a quelques mois, Guillaume Lapostol et son équipe, appuyés par des acteurs locaux, ont lancé le site angershopping.com.
L'idée de ce site, c'était vraiment de permettre aux petits commerçants qui n'ont pas forcément le temps ou la connaissance pour se digitaliser, de prendre le train du digital. Et le but, c'est que ce ne soit pas d'autres acteurs qui le prennent pour eux. Et donc, grâce à ça, ils sont beaucoup plus compétitifs.
Et le résultat est là. Déjà 150 commerçants référencés. Un centre-ville qui ne connaît pas la crise. À Angers, le taux de vacances commerciales n'est que de 7%, deux fois moins que dans les autres villes équivalentes. Cadre de vie, marché immobilier attractif, diversité des offres de formation. La métropole est aujourd'hui l'une des plus dynamiques de France. Un succès qui s'explique aussi par une économie diversifiée, 15 000 entreprises dont certaines à la pointe de la technologie, comme Verisure, le leader européen de l'alarme avec télésurveillance.
Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de la télésurveillance, donc endroit sécurisé où va se passer tout le traitement des alarmes par les opérateurs et par les chargés d'assistance.
Et s'il y a deux ans, l'entreprise a choisi Angers pour s'installer, c'est parce que tout a été fait pour l'y inciter. Des aides financières, mais pas seulement.
On a été beaucoup accompagnés sur le choix du site, déjà, premièrement.
Et puis également sur toute la partie recrutement avec les acteurs locaux. On a fait déjà des job dating dans certains quartiers pour aller au devant des populations et leur proposer justement tous les métiers qu'on peut proposer sur le site.
Des acteurs locaux impliqués et des salariés plutôt satisfaits de ce changement. Après 5 ans passés en région parisienne, Guillaume Yakinta a demandé sa mutation sans regret.
C'est un changement total. Je vis avec ma femme et mes 2 enfants dans une maison, à 2 pas du centre-ville, un jardin. On peut même prendre le petit déjeuner tous les matins ensemble, en famille. J'amène mes enfants à l'école à pied, en vélo. Et pour autant, je vais arriver aux mêmes horaires qu'auparavant au travail.
De nouveaux arrivants et une ville qui s'agrandit. À quelques mètres de la gare, un nouveau quartier d'affaires devrait voir le jour d'ici 2025. Une stratégie de développement ciblée menée par le maire qui inaugure ce jour-là un nouvel hôtel dans le secteur.
Quand vous ne donnez pas de destination claire dans une ville qui déjà n'a pas de stratégie de rayonnement, les gens hésitent. Pendant qu'ils hésitent, ils n'investissent pas et ils vont ailleurs. On a eu une ligne simple qui a consisté à dire « Vous voulez investir à Angers dans du tertiaire, c'est à la gare. Les autres secteurs, ce sera plus tard. »
Car pour l'élu, le message est clair. La croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Notre qualité de vie, c'est parce qu'on a une ville à taille humaine. Et je ne veux pas qu'on perde cette taille humaine. Je ne veux pas qu'on atteigne les 200 000 habitants qui nous feraient basculer dans autre chose. À 150 000, on est très bien. On peut peut-être encore gagner 10, 15 ou 20 000 habitants, mais pas davantage. Je ne veux pas surdensifier pour qu'on finisse par perdre ces espaces naturels qu'on connaît. Et donc, je veux qu'on soit prudent aussi sur le fait de ne pas pousser trop loin un certain nombre de projets.
Un équilibre à trouver pour qu'Angers ne soit pas victime de son succès. Depuis le confinement, les nouvelles installations de particuliers ont connu une hausse sans précédent.
Bon, c'est une perspective plus réjouissante.
Ah oui,
l'idée qu'il y ait des villes moyennes qui s'en sortent et qui arrivent à faire face
envie,
à la crise.
Mais je pense qu'il y a plusieurs villes moyennes, Angers, Tours, Laval, Le Mans, des villes où il y a quand même une liaison ferroviaire vers une métropole, mais qui vont tirer leur épingle du jeu parce que l'immobilier est moins cher, la qualité de vie est bonne et que souvent ce sont des villes où vous avez, pour peu que les élus locaux fassent bloc, qu'il y ait un écosystème qui se mette en place, c'est le moment. Il y a une aspiration après le confinement. Alors, surtout si on en vit un deuxième. Après le confinement, il y a de nombreux citadins qui vont avoir envie d'un peu plus d'espace. Le télétravail va aider aussi beaucoup. Ça, c'est une des révélations de cette crise, même s'il est en train de décroître. Le télétravail, on a quand même montré qu'on était capable de le faire dans de nombreux secteurs, de façon assez bien organisée. Donc, tous ces éléments, ça va plutôt être des choses positives à tirer de cette crise.
Jean Castex a vu les présidents de région récemment, il compte s'appuyer davantage sur les territoires, comme il dit, pour faire face à cette crise. Ça change quelque chose ou ça, c'est de la politique ?
Alors, il y a des choses pour lesquelles ça fonctionne, c'est-à-dire notamment pour le plan de relance, il a besoin des régions et toute une partie de l'argent du plan de relance qui va aller vers les régions et irriguer comme ça l'ensemble du territoire. D'ailleurs, c'était la grosse inquiétude d'Emmanuel Macron qui avait envisagé de décaler les régionales parce qu'il ne voulait pas que pendant la campagne des régionales, les candidats qui sont aujourd'hui en place, comme Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou Xavier Bertrand, puissent utiliser cet argent pour dire « Regardez les réalisations que j'ai effectuées et lisez-moi l'année prochaine ». Donc il a, ça s'est résolu, les régionales n'ont pas été, la date n'a pas été changée, mais effectivement Jean Castex veut s'appuyer sur les régions, mais ça ne marche pas tout le temps, ça ne fonctionne pas tout le temps. Regardez la semaine dernière ce qui a pu se passer, c'est-à-dire au moment des discussions, notamment pour les restrictions, pour les fermetures de cafés ou de restaurants à Marseille ou à Paris, il y avait eu des discussions préalables, notamment Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ne voulait pas en entendre parler, ne voulait pas entendre parler de fermeture de café. D'ailleurs, son premier argument n'était pas un argument économique, c'était un argument sanitaire, en disant les jeunes notamment vont se retrouver dans des soirées privées, on ne pourra plus rien contrôler. Elle n'a pas été entendue, donc elle était furieuse de la façon dont ça s'est passé. Et puis ensuite, il y a eu des discussions après les annonces d'Olivier Véran. Donc c'était un premier couac entre Jean Castex et les territoires, parce que sur d'autres sujets, ça se passe très bien. Par exemple, quand Valérie Pécresse dit on a un problème avec les transports en commun en Île-de-France, il faut les sauvegarder, on a besoin d'énormément d'argent, le bras de fer était installé avec le gouvernement précédent, Jean Castex a débloqué ce dossier. Donc, parfois, ça se passe bien. Mais sur la crise et sur les mesures toutes récentes, non, là, il y a eu vraiment un gros couac.
Édition spéciale, si vous nous rejoignez, consacrée aux relocalisations, ce défi français et cette question, Élie Cohen. La crise a enterré une fois pour toutes l'idée des frontières ouvertes, retour au protectionnisme, à la consommation locale, à la souveraineté nationale ?
Oh non, certainement pas.
Ah
je crois que personne ne... Enfin, j'ai regardé le film, j'ai vu que Arnaud Montebourg disait que maintenant le protectionnisme c'est quelque chose qui se portait bien et qu'il avait bravé un Anchorman aux États-Unis en lui disant le protectionnisme c'est chic et ce que fait la France. Non, personne ne peut penser qu'un protectionnisme généralisé pourrait être un facteur de progrès. Parce que bien entendu, si nous devenons nous protectionnistes, si nous élevons des barrières, tout le monde va faire pareil. Et comme globalement l'Europe est une région qui est exportatrice net, c'est-à-dire que nous exportons beaucoup plus que nous importons, nous, globalement européens, serons des grands perdants. Alors, le problème, il est différent. Le problème, c'est qu'au sein de cette Europe, il y en a qui font beaucoup mieux que d'autres. Les Allemands font beaucoup mieux que nous, Français. Et nous, Français en particulier, au cours des 20 dernières années, notre performance a été particulièrement médiocre. Nous avons beaucoup plus délocalisé, par exemple, dans l'automobile, que nos voisins allemands. Ce n'était pas du tout indispensable. Par exemple, dans le domaine de la pharmacie, nous avons fermé les dernières usines de principes actifs qui existaient. C'était probablement excessif. Donc je crois qu'il va y avoir un retour de réflexion, qu'on va réfléchir à nouveau à ce qu'il faut localiser chez nous absolument, ce qu'on peut partager en termes de localisation au niveau européen, mais on ne va certainement pas renoncer au bénéfice de l'ouverture économique.
Même si on est entre deux géants, les États-Unis et la Chine, qui, eux, jouent la carte du protectionnisme.
Oui, mais ce n'est pas grâce à ça qu'ils réussissent. Le président Trump a mené une politique protectionniste assez véhémente depuis le début de son mandat. Et on a déjà des études qui montrent qu'en réalité, ça se fait plutôt au détriment du consommateur américain, parce qu'il faut bien comprendre que des mesures protectionnistes, ce sont des hausses d'impôts. Ce sont les consommateurs qui les payent. Et il ne faut pas croire que parce que vous allez mettre des droits de douane sur l'automobile, vous allez avoir plein d'usines automobiles qui vont fleurir dans votre pays. Non, ce qui se passe, c'est que les automobiles que vous importez, vous allez simplement les payer plus cher et l'argent que vous avez perdu, il ne sera pas dépensé ailleurs. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu étonné qu'on présente ce renouveau du protectionnisme comme étant une pensée économique audacieuse, moderne, parce que quand on fait un peu d'histoire économique, le protectionnisme, on appelle ça le mercantilisme, ce sont les doctrines d'avant l'analyse économique, c'est-à-dire que ce sont des doctrines qui étaient partagées par les gouvernants jusqu'au XVIIe siècle, qui ont abouti d'ailleurs parfois à des conflits, parce que le protectionnisme, c'est l'idée selon laquelle, au fond, il faut toujours se défendre, et ce qu'un pays gagne, l'autre le perd. Donc c'est une doctrine qui est très, très conflictuelle, et ce sont des choses qui ont été progressivement abandonnées. En revanche, on a absolument besoin d'être moins naïfs. Et là, l'administration Trump a eu parfaitement raison sur les questions de propriété industrielle. Et notamment, alors là, je pense que le président Trump a eu raison de mettre ça sur la table. Et puis, il faut que nous, en Europe, on ait des politiques industrielles qui nous permettent d'être beaucoup plus performants dans le numérique, dans le spatial, dans la technologie. Et ça, on ne l'a pas bien fait.
Ça veut dire qui, en Europe? On l'a bien vu dans le reportage et avec le cas de Bridgestone, par exemple, où on se retrouve dans une situation où on se dit, on met tout en commun, c'est l'Europe, etc. On va se protéger. Et en réalité, les délocalisations, elles se font au sein même de l'Europe, avec des usines dans lesquelles le groupe Bridgestone, groupe japonais, qui appartient aux Japonais, décide d'investir pour des nouvelles usines en Pologne.
C'est vrai que la question de l'harmonisation sociale, fiscale de l'Europe va certainement se poser de façon encore plus accrue qu'avant. On va être face à une volonté. Est-ce que les 27 vont avoir la capacité de se mettre d'accord et d'essayer de trouver quand même un certain nombre de normes communes? Je crois quand même qu'il y a un petit changement par rapport aux années précédentes sur la question, vous l'avez dit, de naïveté. Je crois que jusqu'à présent, par rapport à l'ouverture des frontières, il y a quand même une volonté, une aspiration, et là elle est quand même très partagée, que ce soit en Allemagne, d'être un peu moins naïf, de faire en sorte que l'Europe, on protège un certain nombre de nos fleurons. On le voyait dans votre reportage d'ailleurs très bien sur les données, sur le traitement des données, pour essayer de faire en sorte qu'on arrive quand même à construire des géants européens. Et puis on le voit sur la taxe GAFA par exemple, la taxe sur ces géants du web. Bon, ça avance à petits pas, mais quand même, il y a une forme de consensus qui est en train de naître, de dire on ne peut pas rester chacun de notre côté à faire notre mini-taxe locale, alors que les Américains et la Chine sont en train de se développer entre chez nous comme ils veulent. Nous, il faut qu'on mette quand même un certain nombre de barrières.
Est-ce que c'est la fin de la naïveté aussi lorsqu'on entend les Européens dire, en gros, l'avenir de l'Europe, c'est de produire, en tout cas, c'est le Green Deal, c'est l'idée de produire écologique, avec l'idée de mettre des taxes aux frontières de l'Europe, des taxes pour les produits qui ne correspondraient pas aux normes européennes environnementales. Là, c'est une façon de se protéger, de protéger un modèle.
Oui, d'ailleurs, toute la question, c'est la fameuse question des ressources propres, puisque dans le cadre du plan de relance européen, ils se sont tous mis d'accord en disant on aura des ressources propres européennes, alors que ce soit la taxe GAFA, par exemple, taxe carbone aux frontières, etc. Pour l'instant, tout ça est balbutiant, c'est à petits pas. Mais il s'est passé quelque chose d'un point de vue politique dans la mesure où cette annonce a été faite. Ce n'est qu'une annonce, mais on sait qu'en Europe, voilà, il faut du temps pour que des annonces comme celle-là soient faites. Donc ça, c'était un premier point important. Et je pense que cette crise, même si on n'a pas fini de mesurer les conséquences que cette crise peut avoir dans l'acceptation des populations de certains thèmes, d'ailleurs. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de ça. Emmanuel Macron l'a senti. De toute façon, dès le début, dans son programme présidentiel, c'était libérer, protéger. Là, on est au protéger, mais ce n'est certainement pas le protéger qu'il envisageait en 2017.
Juste un mot, Élie Cohen. Quand vous regardez les autres plans de relance et les autres budgets des pays européens, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils sont sur le même schéma que nous, ils ont fait les mêmes choix que nous. Parce que là, j'ai vu aujourd'hui qu'ils n'avaient pas voté de budget en Espagne. Parce qu'ils considèrent que ça va tellement bouger que ça ne sert à rien.
Oui, il y a la même structure dans les plans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les critères que la Commission européenne entend utiliser pour l'octroi des fameux 750 milliards d'euros du plan de relance. Vous avez vu que la procédure qui a été adoptée par la Commission européenne, c'est de demander à chaque pays de soumettre un plan d'investissement et de regarder notamment si dans les investissements, quelle est la part qui est faite aux investissements dans le numérique, sur la 5G, dans la transition écologique, les investissements verts. Et la Commission européenne a dit qu'elle vérifierait que l'argent octroyé irait bien à ces investissements.
Il y a des contreparties, là.
Alors, il y a des contreparties, oui. Mais c'est des contreparties qui doivent vous ravir, puisqu'il s'agit de stimuler la croissance, le développement technologique. Et la reconquête de la souveraineté industrielle. Et écologique, absolument.
Allez, et quand on promet aux Français qu'on va enfin préparer l'avenir, il faut que ça se voit. Alors, Emmanuel Macron a mis en place un commissaire général au plan, François Bayrou, chargé de préparer en quelque sorte la France de demain, et peut-être pour une fois réfléchir au-delà de la prochaine présidentielle. Barbara Stack, Pierre Dehorne et Arnaud Fora l'ont rencontré.
Ressuscité, le Haut Commissariat au plan, avec à sa tête François Bayrou. Emmanuel Macron lui a confié la mission de réfléchir à la France à 10, 20, 30 ans. Il y a une semaine, le maire de Pau présentait sa feuille de route avec un enjeu majeur, permettre au pays de reprendre le contrôle de son avenir.
Il est des domaines vitaux qui nécessitent une intervention de l'État, en tout cas une orientation et une incitation de l'État. Et si l'on veut aller plus loin et regarder de plus près les équilibres internationaux dont nous dépendons, alors on s'apercevra que des menaces brûlantes peuvent compromettre la liberté de choix, l'indépendance de notre pays et des pays partenaires.
La souveraineté économique du pays, mais aussi sa vitalité, sa justice, en tout 25 thèmes de réflexion. Avec un maître mot, planifié, François Bayrou le promet, sa porte sera ouverte à tous.
Quand on regarde la politique chinoise, leurs instances politiques se fixent des horizons à 30 ans. Ils achètent de la terre dans le monde, et ce n'est pas pour l'utiliser demain matin. C'est parce qu'ils pensent que l'enjeu du foncier sur la planète va être un très grand enjeu, qu'ils n'en ont pas assez donc, à 30 ans. Et nous, quelquefois, on réfléchit même pas à 30 jours.
En présence de M. Georges Bidault, M. Jean Monnet a présenté le plan de 4 ans, œuvre collective.
Le Haut Commissariat, loin d'être une idée nouvelle, il est créé au lendemain de la guerre par le général de Gaulle et Jean Monnet.
La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité.
Depuis 1946, cette institution a vu défiler 16 hauts commissaires et une dizaine de plans. Ils ont participé au développement de la filière nucléaire ou encore du TGV. Mais en 2006, le Haut Commissariat tombé en désuétude est remplacé par des agences d'analyse stratégique. Alors certains s'interrogent sur la nécessité de faire renaître cette administration.
Ce haut commissariat au plan, il va faire complètement doublon par rapport à des structures qui existent déjà, par rapport au conseil d'analyse économique, par rapport au comité de suivi du plan de relance, mais aussi par rapport au conseil économique et social et environnemental, dont il faut rappeler que le gouvernement voulait en faire quelque chose de central, justement, pour réfléchir à demain, etc., etc. Ben, on peut se poser la question, pourquoi recréer ce haut commissariat maintenant ? Pourquoi mettre François Bayrou à sa tête ? Est-ce que c'est vraiment pour penser demain au service des Français ou est-ce que c'est penser la prochaine élection présidentielle et le programme ?
Du côté de l'opposition, à gauche, la France insoumise, loin d'être critique, soutient même l'initiative du gouvernement.
Ils ont dit qu'ils allaient rencontrer tout le monde, on va les rencontrer, on va donner notre, ce que nous estimons nécessaire pour le pays et la façon dont on voit les choses, y compris en termes de modalités. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait un haut commissariat qui existe, avec quand même des équipes, puisqu'il y aura quand même des équipes qui seront mises en place, c'est clair qu'on s'en servira si demain nous gouvernons. Donc c'est un point positif.
Outil pour l'avenir ou boîte à idées en vue des prochaines élections, François Bayrou veut, lui, aller vite. Les premières synthèses du haut commissariat au plan devraient être rendues publiques d'ici 3 mois.
Et cette question, quel sera le rôle du Haut Commissariat au plan ? Quel sera son rayon d'action ?
Non mais, enfin, j'entends un certain nombre de ricanements autour de cette histoire de Haut Commissaire au plan, mais la vraie difficulté des démocraties, c'est qu'elles ont de très grandes difficultés à anticiper sur le long terme. Or, sur les questions de technologie, sur les questions d'environnement, sur les questions de logement, on a absolument besoin d'avoir une vision de long terme. Et donc, c'est très important que des démocraties arrivent à mettre en place des structures qui permettent de faire ce type d'anticipation. Alors, on a ça en France, bien évidemment. Il y a des comités qui font un travail formidable. France Stratégie, c'est formidable. Mais les rapports de France Stratégie sont lus éventuellement autour de cette table. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout idiot d'avoir une personnalité politique importante qui, en plus, a une certaine appétence pour ces questions-là, qui soit proche du Premier ministre ou du Président. Je pense que ça peut être tout à fait utile. Enfin, dans tous les pays asiatiques, vous avez ça.
C'est ça qui nous a manqué, Elie Cohen.
Non, mais je crois effectivement que c'est très bien qu'une personnalité politique majeure incarne les défis du long terme, la réflexion de long terme. Mais ce n'était pas ça, le commissariat au plan. C'est-à-dire, quand on a créé le commissariat au plan à la Libération, on lui a donné des moyens financiers, c'était la contrepartie du plan Marshall, on lui a donné des objectifs sectoriels, on lui a donné la capacité d'aider financièrement des acteurs privés pour bâtir des usines, on lui a donné le moyen de planifier l'équipement du territoire. De plus, il pouvait mobiliser la commande publique à travers des organismes publics. Il pouvait lancer de grands plans d'équipement du territoire. Il pouvait transférer la recherche publique vers les acteurs privés. Rien de tout ça n'existe aujourd'hui. Donc, je me pince quand je me dis qu'on est en train de réinventer le plan. Non, ce n'est pas ça. Le plan, ça a correspondu à un moment qui était le moment de la reconstruction et du développement, la sortie d'une économie fermée vers une économie ouverte, la grande migration du monde agricole vers le monde industriel, l'équipement du territoire. Et comme nous avons la tête bien faite, que nous avons des grands corps, nous avons fait les grands plans d'équipement énergétique, dans le nucléaire, dans les télécoms. Bon, tout ça, c'était l'ancien temps. Après, il y a eu l'ouverture, la mondialisation, l'intégration européenne, le développement des multinationales à base française, le développement de l'économie de services, l'accélération technologique. Et donc, si possible, essayons de penser les instruments pour les temps nouveaux au lieu d'essayer de ressusciter le programme du Conseil national de la résistance.
Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement lorsqu'il décide de mettre le paquet, pardon pour l'expression, sur l'hydrogène, comme le font aussi les Allemands ? Est-ce que, ou sur alors, le calculateur quantique, il parle tout le temps de ce sujet-là, en disant, Bruno Le Maire, il assume, il dit, on a raté le coche du digital, on n'aura pas l'équivalent des grandes plateformes américaines, pour ça c'est déjà trop tard. Mais est-ce qu'ils ont raison, et c'est ce que font aussi les Allemands, de dire, puisqu'on a raté cette étape-là, sautons l'étape d'après et investissons sur d'autres technologies.
Oui, moi, je pense qu'il essaye de donner des caps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour moi, ça fait doublon cette histoire de haut commissariat, parce que le plan de relance, finalement, on voit bien qu'il y a des pistes qui sont quand même, enfin, des chemins même qui sont tracés. La batterie électrique, l'hydrogène, vous l'avez dit, un certain nombre de dossiers, plutôt au niveau européen, d'ailleurs. On va essayer de développer au niveau européen une avance sur ces secteurs, ou en tout cas, ne pas prendre trop de retard. le commissariat au plan incarné par François Bayrou, à côté, ça fait un peu gadget. Surtout que dans le plan de relance, normalement, il y a un comité, une mission qui doit rapporter à la fois à Bruno Le Maire, enfin à Bercy, mais aussi, on imagine quand même, vu la période, au président de la République.
Est-ce qu'ils savent où ils vont ? À votre avis, est-ce que le gouvernement, alors où on se parle à la veille d'une deuxième vague, dans la situation économique qui est la nôtre aujourd'hui, avec une perspective de croissance de 8% hein, pour l'an prochain, des chiffres jugés volontaristes par le Haut Conseil des Finances Publiques, est-ce qu'ils savent où ils vont ?
Il y a deux choses. Il faut distinguer le moyen long terme. C'est ce que fait le plan de relance, en fait. Ce plan de relance, ouais. Je suis d'accord avec Eli Cohen, au fond, il aurait pu être pris il y a 5 ans. Enfin, je veux dire, il est assez indépendant de la situation, mais pour le coup, c'est un plan qui est très cohérent et qui sait parfaitement là où il va. Sur le reste, moi, ce qui m'a le plus frappé, et notamment, on a eu cette expérience lors des réunions à Bercy, c'est qu'il n'y a pas de process. Il n'y a pas de référence passée dans cette crise. On apprend en marchant. Je veux dire, la crise de 2008, à la limite, il y avait la crise de 1929 qui avait été incroyablement étudiée du point de vue universitaire. On en avait tiré toutes les leçons. Donc, on avait, si vous voulez, ce précédent sur lequel on pouvait se baser. Mais là, il n'y a absolument rien. Donc, est-ce que le gouvernement sait où il va ? Je prends votre question auprès de Ré. Non, alors, bien sûr que non. Mais aucun gouvernement dans le monde aujourd'hui ne sait où il va. Et le meilleur gouvernement aujourd'hui, c'est celui qui arrive à adapter sa stratégie et surtout, mais ça ne suffit pas, et surtout à la faire exécuter.
Ah oui.
Et c'est ça qui fonctionne peut-être pas très bien en France. C'est que du point de vue économique, je pense que la stratégie qui a été prise depuis le début est la bonne. Mais parfois, on a l'impression qu'il y a des problèmes d'exécution. Au début mars, le chômage partiel, ça a très bien fonctionné, mais au début, ça a été un peu compliqué. Ouais. Il y avait des directs qui n'étaient pas aussi allantes que ce que le ministre avait demandé. Là, sur le plan de relance, on a une inquiétude. C'est que le gros de l'argent ne soit pas sorti cette année, mais l'année prochaine. Vous voyez, donc ça, ce sont des problèmes d'exécution.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Faut-il accepter le discours de Bruno Le Maire lorsqu'il dit qu'il faut renoncer à une partie de notre économie ? C'est ce qu'il dit, clairement, oui. Bruno Le Maire.
Il dit clairement, il y a des secteurs, on sait, ils sont désuets, ils ne sont plus adaptés, ils vont fermer. C'est très difficile de dire ça. C'est très difficile, quand vous êtes un ouvrier de Bridgestone, d'entendre que vous avez passé 30 ans dans une usine, qu'elle va fermer parce qu'on ne fait plus des pneus de la même façon et que demain, ça ne correspond plus à une demande. Alors, certains politiques ont essayé de le faire. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, il a gagné des galons sur le parking de Whirlpool au moment de la campagne présidentielle en disant « on ne va pas vous raconter des histoires, mais on ne va pas faire des machines comme on en faisait avant ». C'est la difficulté des mutations économiques. Maintenant, c'est difficile. Il faut vraiment, pour le coup, accompagner les gens. Et puis, c'est une histoire d'anticipation. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain à une entreprise, on va fermer parce que le secteur ou l'activité dans laquelle vous êtes ne fonctionne plus. Il y avait des signaux quand même d'alerte sur Bridgestone. Le marché automobile, certes, la crise...
On accompagnera, l'État accompagnera.
Voilà. Bah, après, surtout, il faut aussi que l'État soit capable d'accompagner. Et là aussi, il y a des ratés sur la formation.
Et surtout, on ne peut pas se donner comme grand objectif, à la fois en Europe, en France et ailleurs, le verdissement de l'économie pour répondre à ce défi majeur qu'est le changement climatique et ne pas en tirer les conséquences. Quelles sont les principales conséquences du verdissement de l'économie ? C'est que ce que j'appelle moi du capital brun, c'est-à-dire du capital polluant, va être détruit alors même que ce capital pourrait continuer à générer des revenus, générer de l'emploi, de l'activité, etc. Ouais. L'accélération du passage aux véhicules électriques, ben ça représente un raccourcissement des délais de vie de tous les équipements liés au diesel. Le fait qu'on ferme des centrales thermiques et qu'on investisse massivement dans le renouvelable, ben ça veut dire que des usines productrices d'électricité avec du charbon, avec du pétrole ou du gaz vont être fermées, alors même qu'elles auraient pu continuer à produire et être rentables. Donc cette substitution du capital vert à du capital brun qu'on détruit de manière anticipée, ça, c'est un des facteurs majeurs qu'on a devant nous. Alors,
avec des destructions d'emplois ou parce que...
Des destructions d'activités et des destructions d'emplois.
Et des créations d'emplois.
Et on peut espérer des créations d'emplois dans des secteurs nouveaux, porteurs, avec tous ces investissements verts qu'on va faire par ailleurs.
Je suis de près les débats en Allemagne. Les notions de souveraineté, relocalisation ou naïveté européenne en sont absentes. Ce n'est pas un débat qui préoccupe visiblement les Allemands.
Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu deux documents majeurs produits, l'un par le patronat allemand, l'autre par le gouvernement allemand l'année dernière, qui parlent de concurrence systémique que la Chine livre à l'Allemagne et à l'Europe, et à la nécessité d'une reconquête industrielle. Et j'ai lu le plan qui avait été présenté par M. Altmaier, qui disait même des choses qui me semblent à moi invraisemblables, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne chose que l'Allemagne ait perdu toute compétence dans l'électronique grand public, hein, vous vous souvenez, les appareils Grundig, etc. Et il disait qu'il faut qu'on reconquiert même ses activités, et il était très allant sur toutes les filières industrielles dans lesquelles il estimait...
Donc il y a un débat aussi en Allemagne sur ces sujets-là. Absolument. La transition énergétique est-elle créatrice d'emplois ?
Normalement, oui. Après, la question, il faut voir combien. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Ça fait des théories sur le papier. On a envie de dire, oui, alors on va fermer certaines usines, mais c'est du patrimoine industriel, c'est l'histoire des gens. C'est pour ça que ces mutations-là, on ne peut pas juste dire, on va perdre, je ne sais pas, 10 000 emplois, on va en recréer de la même façon. Ça ne va pas concerner les mêmes gens, ça ne sera pas les mêmes secteurs, les mêmes zones. C'est aussi tout ça qui est difficile à accepter, parce qu'on reste, certes, on fait des chiffres, on fait de l'économie, mais on reste avant tout des hommes et des femmes face à des changements.
Une question, enfin une remarque de Léo dans le Puy-de-Dôme. 10 ans qu'Arnaud Montebourg prône le Made in France, 10 années de perdu.
C'est ce qu'il pense aujourd'hui, c'est ce qu'il vous a dit d'ailleurs. Mais ça a progressé, le Made in France, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça a considérablement progressé. En revanche, lui, il aimerait qu'on bascule du Made in France à la relocalisation, et on a vu à quel point c'était compliqué. Mais pour l'instant, lui, c'est ce qu'il défend, mais c'est vrai qu'il est un peu moins seul qu'il ne l'était à une période.
À l'époque, oui.
Celui qui décide, c'est le consommateur. C'est ni Arnaud Montebourg, ni le ministre de l'économie, ni les dirigeants d'entreprise, ni même les actionnaires des entreprises. Le juge de paix, in fine, c'est le consommateur. Est-ce qu'il est prêt à acheter quelque chose qui est produit en France ? Alors, le Made in France, d'ailleurs, ce n'est pas 0 ou 1, ça n'existe pas. Il n'y a pas les produits faits à l'étranger, les produits faits en France. Made in France, c'est une gamme, en fait, extrêmement large. Mais quand on regarde quand même aujourd'hui ce que nous disent les acteurs de la grande distribution, hein, quand ils regardent ce que les gens achètent,
le
premier critère aujourd'hui, c'est les prix. Et malheureusement, on peut penser qu'avec les difficultés économiques qui se profilent, ce sera encore plus les prix ces prochains mois.
Pour éviter les délocalisations, pourquoi ne pas boycotter les entreprises qui s'y prêtent ? On les sanctionne. Elles délocalisent, on les sanctionne. Ça fait rire, quand même.
Donc, ça veut dire qu'on n'achèterait plus de Renault demain, qu'on n'achèterait plus de Peugeot, qu'on n'achèterait plus... Jusqu'à présent, l'un des critères de succès d'une grande entreprise française, c'était sa capacité à s'internationaliser, puis après à se multinationaliser. Et il y a un cycle du produit qu'on a tous appris à l'école. Au début, on commence par exporter des produits, puis après, on exporte des technologies, puis on exporte des usines, et puis après, on se met éventuellement à réimporter des produits qu'on a fabriqués ailleurs. Si vous voulez, si on raisonnait comme ça, la Chine n'aurait pas décollé, le Japon n'aurait pas décollé, l'Allemagne n'aurait pas décollé. L'histoire économique, c'est l'histoire de l'industrialisation progressive de pays qui étaient d'abord des pays agraires, puis qui sont devenus des pays industriels, puis des pays tertiaires. Et donc, dans ce jeu, je vais vous donner la bonne nouvelle.
Allez-y,
la bonne nouvelle, c'est le moment. Même la Chine commence à se désindustrialiser. C'est-à-dire que la part de l'activité industrielle dans le PIB chinois, commence à baisser.
Ils délocalisent notamment en Afrique, et où le coût du travail est encore plus bas.
Voilà.
Mais allez, relocaliser réglera-t-il le problème de la compétitivité française ?
Alors, ça va s'améliorer, la compétitivité, on le voit. Hein. En tout cas, le gouvernement a très envie. Sur la question quand même du boycott, je pense qu'on oublie qu'il y a un côté réputationnel qu'il n'y avait pas avant, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, quand même, le consommateur peut décider. On l'a vu, il y a des grandes marques qui ont quand même pris des coups dans l'aile à des moments parce qu'elles ne respectaient pas certaines normes. Elles faisaient travailler les enfants, elles ne respectaient pas des normes écologiques. Je pense que ça risque aussi, ça peut influer à un petit niveau. Certes, ce n'est pas des grande masse, mais quand même.
Faut-il aller jusqu'à la nationalisation de certaines entreprises, Nicolas Bouzou ?
Oui, bien sûr. Des entreprises qu'on juge stratégiques, évidemment qu'il faut les nationaliser. C'est complètement idiot de perdre une entreprise uniquement à cause d'un virus. Il est normal que les entreprises fassent faillite, mais elles doivent faire faillite quand elles sont mal gérées. Mais quand il leur tombe dessus une catastrophe qui n'était pas anticipable, si elles sont stratégiques, il faut bien évidemment les nationaliser de façon temporaire.
Eli Cohen.
C'est ce qu'on fait déjà. Je veux dire, quand on voit les concours financiers qui sont apportés maintenant à Air France, à Airbus et à toute une série d'entreprises, et si la crise se développe, on va apporter encore plus de capitaux. Et puis, il y a un phénomène nouveau, c'est qu'on voit que certaines grandes entreprises françaises comme elles sont affaiblies, les Chinois achètent des intérêts, notamment dans le groupe Accor,
oui.
Et le problème risque de se poser demain.
Eh ben, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle juste que les entretiens qu'on a vus dans le film ce soir sont à retrouver in extenso, si ça vous intéresse, sur les plateformes, sur le podcast de C'est dans l'air. Bonne nuit, à demain.